qui nous en dira plus en direct de Cannes pour Radio J.
Bon, alors, bonne matinée et à demain, je vous écoute. Hein.
Oui, oui, à demain, Léa. À demain. Merci.
Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J. Réveillez l'informé qui est en vous.
Écoutez Radio J.
Le 10-11, le 10-11, Lise Goodman.
Radio J.
Voilà, oui, bah, il y a un peu d'ambiance dans le studio de Radio J. Il est 10h. Très heureuse de vous recevoir pour un nouveau 10-11. Et tout de suite, c'est le journal d'Eva Soto. Eva, bonjour.
Bonjour Lise, bonjour à toutes et à tous.
Alors, à la une de l'actualité en Israël, le 222e jour de guerre contre le Hamas et les États-Unis qui vont envoyer des armes à Jérusalem.
L'administration Biden l'a annoncé au Congrès, il s'agit d'armes et de munitions pour plus $1 milliard. C'est la première expédition d'armes vers Israël de l'administration américaine depuis qu'elle avait suspendu un autre transfert. Elle souhaitait alors empêcher Israël d'utiliser des bombes dans le cadre de son offensive contre le Hamas à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.
L'administration Biden ne croit pas qu'Israël commette un génocide contre les Palestiniens à Gaza.
C'est ce qu'a déclaré hier le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan. Il a affirmé que les États-Unis n'utilisaient cette expression de génocide donc que sur des normes internationalement reconnues, c'est-à-dire reposant sur une intentionnalité de détruire tout un peuple. Des déclarations qui font suite aussi à une remise au point de deux organismes de l'ONU, comme nous l'explique l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Daniel Saad.
Ils ont publié tous les deux des rectificatifs sur le nombre des victimes à Gaza. Certaines statistiques sont divisées par deux et même par trois. Et surtout, surtout, ils confirment que l'immense majorité des victimes de Gaza ne sont ni des femmes ni des enfants. Ce qui revient à confirmer que nous traquons et nous éliminons essentiellement des terroristes du Hamas.
L'ancien ambassadeur d'Israël en France, Daniel Saada, c'était ce matin dans le 6-9 d'Ilana Ferradian. Toutes ces chroniques sont à podcaster sur radioj.fr.
Et puis l'annonce ce matin d'un nouveau soldat de Tsahal tombé au combat hier dans la bande de Gaza.
Le sergent Ira Yair Ginspan, 19 ans, de Petar Tikva, est toujours sur le front sud. 14 soldats de Tsahal ont été blessés hier, dont 4 grièvement, dans des combats dans la bande de Gaza. La conséquence d'une fusillade avec des terroristes dans le nord du territoire pour 8 d'entre eux. Par ailleurs, cette nuit, Tsahal a aussi intercepté 2 drones venus de l'Est. Ils ont pu être abattus avant de franchir la frontière.
Et selon Tsahal, il y a aussi des otages dans la région de Rafah.
C'est ce qu'a affirmé hier le porte-parole de l'armée israélienne lors de sa visite aux troupes en opération dans l'est de la ville. Selon le contre-amiral Daniel Agari, les opérations à Rafah, Jabalia et Zeytoun ont permis d'éliminer plus de 100 terroristes. Lors de cette conférence de presse donnée depuis Kerem Shalom, il a aussi évoqué les 10 tunnels localisés depuis le début de la semaine.
Daniel, en France, le mur des Justes du mémorial de la Shoah, vandalisé à Paris, des mains rouges y ont été taguées, une plainte a été déposée.
Les mains rouges, symbole utilisé par les manifestants se présentant comme pro-palestiniens, notamment à Sciences Po, et mis en cause pour leur connotation liée au lynchage de 2 soldats de Tsahal en 2000, condamnation d'Emmanuel Macron de ces tags, dégrader le mur des Justes parmi les nations, barrage des lumières contre le nazisme, c'est porter atteinte à la mémoire de ces héros comme à celle des victimes de la Shoah. La réaction de Yigal Palmore, responsable des relations internationales à l'agence juive.
Nous avons affaire ici à quelque chose de bien plus profond, bien plus répugnant, bien plus dangereux qu'une simple opinion politique qui peut être répréhensible, qui peut être rejetée, mais qui n'est qu'une opinion politique. Non, ce n'est pas une opinion politique, ce n'est pas une opinion du tout. C'est un sentiment profond, viscéral, de rejet raciste et d'antisémitisme. Voilà, parce que le racisme contre les juifs, c'est de l'antisémitisme.
Yigal Palmore, responsable des relations internationales à l'agence juive, ce matin dans le morning de Radio J.
En Grande-Bretagne, deux hommes accusés d'avoir planifié des attentats antisémites à l'arme automatique.
Ils ont comparu hier devant un tribunal britannique, Walid Sadawi et Amar Hussein. Un troisième homme est accusé de ne pas avoir divulgué des informations sur leur projet, projet inspiré par le groupe de l'État islamique. Ces trois hommes comptaient aussi s'en prendre à l'armée et aux forces de l'ordre britanniques.
Merci Eva Soto, on vous retrouve à 10h30 pour le rappel des titres.
De Lise Gutmann vous est proposé avec le concours du Centre d'art et de culture et du FSJU. Théâtre, concerts, créations exclusives, rencontres inédites, tout le programme du Centre d'art et de culture est sur culture-juive.fr. Radio J.
Radio J.
Le 10-11. Le 10-11. Lise Gutmann.
Radio J.
Radio J.
Les invités de Lise Gutmann.
Le troisième forum Génération de la Shoah va se tenir au mémorial de la Shoah et dans les annexes. Ça va être du 18 au 20 mai, c'est-à-dire le week-end prochain. Rire dans les larmes, c'est le thème cette année, pour une mémoire toujours vivante. Pour nous en parler, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Fabienne Hamson dans le studio de Radio J. Bonjour Fabienne.
Bonjour Lise, merci de m'inviter.
Oui, Fabienne, vous êtes responsable du service Écoute, Mémoire et Histoire de l'OSE. Et nous sommes en ligne avec le mémorial de la Shoah, avec Lior Lalius-Madja. Bonjour.
Bonjour, bonjour, bonjour Lior. À tous. Bonjour.
Alors, Lior,
bonjour, vous, Fabienne.
Oui, vous bonjour, n'avez pas pu venir parce que vous êtes débordée par la préparation de ces trois jours incroyables dont on va dévoiler le contenu maintenant pour nos auditeurs. Lior, vous êtes responsable du photodeck au mémorial. Je crois que vous êtes aussi, bien sûr, historienne et encore beaucoup d'autres choses, conférencière. Bref, que ce soit Fabienne, comme vous, vous n'arrêtez pas, ainsi que toute l'équipe autour de vous. Est-ce que je me trompe ?
Oui, je pense que nous n'arrêtons pas. En effet, au mémorial à l'OSE, MEDEM, enfin toutes ces associations sont extrêmement actives hein, et elles se rassemblent en effet pour travailler ensemble sur ce forum. Donc, comme vous l'avez dit, samedi et dimanche et même lundi. Voilà, trois jours d'activité
très dense.
Intense.
Voilà. Alors, c'est le troisième forum. Quelle est l'histoire de ce forum, Lior ?
Alors la genèse, elle nous vient des États-Unis où ce sont des rencontres de survivants de la Shoah qui existent en fait depuis 25 ans et qui concernaient les enfants survivants de la Shoah, première génération. Et nous avons assisté à de nombreuses reprises à ces forums, enfin ça s'appelait des rencontres, des meetings, et nous avons eu envie, donc plusieurs personnes, dont on va les citer, de MEDEM, Bernard Flamme, Yoram Mouchnik, Tamar Loinger, de faire la même chose en France, parce qu'on s'est dit qu'il y avait en fait un besoin et peut-être une volonté de se réunir autour de sujets qui sont principalement la transmission de la Shoah dans les familles, autour de vraiment beaucoup de thématiques très différentes.
Alors
la culture,
c'est un,
etc.
Oui, c'est un forum qui connaît un succès grandissant, on peut le dire. C'est la troisième édition du forum, chaque année plus haut, plus fort. Combien de temps on met, Lior, à préparer un tel forum?
Alors,
ça fait,
nous,
ça amuse beaucoup Fabienne Hamson, ma question.
Mais ça met beaucoup de temps parce que, en fait, le comité d'organisation, ce sont donc les gens concernés aussi, et chaque réunion, en fait, c'est un mini forum. Donc, c'est à chaque fois beaucoup de débats pour arriver à le programme que vous verrez lorsque vous viendrez, pour arriver donc à mettre en place des ateliers, des conférences, trouver des intervenants. Fabienne, je crois qu'elle va nous raconter tout ça.
Oui, elle va nous raconter.
On a 3-4 intervenants par atelier. On a mobilisé aussi des personnalités. On va avoir, par exemple, Michel Boujna qui vient nous faire une grande conférence sur la transmission à travers l'humour. Et puis de vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui ont travaillé avec nous pour mettre en place ce forum. Tout à fait.
Alors,
c'est un an de préparation.
Lior, Lior Lalius Madja. Le thème cette année, c'est rire dans les larmes. Étant donné ce qui s'est passé au mémorial hier, malheureusement, on est en plein dans le sujet. C'est terrible. Est-ce que vous qui travaillez là-bas, vous avez des infos à nous donner sur ce qui s'est passé? Je parle du tagage du mur des justes.
Bah écoutez, on l'a découvert, nous les employés, hier matin, quand on est arrivé à 9h. Et d'abord, c'était dans tout le quartier, donc on a déambulé, enfin les gens qui sont arrivés et moi...
Ah oui, c'était pas seulement le mur des justes.
C'est... Non, pas du tout, c'est tout le quartier, même l'église, la Ruda, les Blancs Manteaux, tout le quartier a été tagué avec ses mains rouges. Et donc moi, je suis partie passer par l'hôtel de ville et arrivée au mur des justes, j'étais... extrêmement... En fait, c'était ignoble et je crois que ça nous a donné encore plus de volonté de rester debout et de continuer notre travail.
Bravo. Oui.
Et on a eu beaucoup de soutien, vraiment beaucoup de soutien. Et le soir même, cette allée des justes était remplie de gens qui sont venus.
En solidarité à 18h30.
Tout à fait.
Alors, je voulais juste dire que tout ce qui a été tagué, c'est à l'extérieur. Ils n'ont pas pu rentrer à l'intérieur du mémorial. C'est important à préciser parce que beaucoup de gens ont paniqué. Oui, mais faut le dire, je crois. C'est très important. Merci de nous donner ces détails. Ces détails, c'était donc à l'extérieur. Alors, je vais passer la parole. Vous restez avec nous, Lior, hein. Vous intervenez quand vous le souhaitez. Fabienne Hamson, donc, va y avoir des ateliers, va y avoir des temps forts. On vient d'évoquer le temps fort avec Michel Boujna, mais pas que. Il y a combien d'ateliers? Quels sont les temps forts? Racontez-nous.
Oui, avant de parler des ateliers, je voudrais bien préciser l'objectif du forum. C'était vraiment deux raisons principales. C'est la première, c'est que les générations d'après la Shoah, les enfants des survivants de la Shoah, jusqu'à présent, on leur a donné peu d'espace, peu de temps, d'espace de parole. Donc l'idée du forum, c'était aussi de pouvoir leur donner un lieu. Et puis d'autre part aussi, le fait que les survivants de la Shoah, eux, petit à petit, disparaissent. Au fil du temps, ils sont très âgés, très fatigués. Et ils sentent qu'il faut passer le relais aussi. Donc que la transmission doit se faire, qu'il faut laisser la place à leurs enfants pour aussi... transmettre.
Écoutez, moi j'étais à la lecture des noms le jour de Yom HaShoah, comme tous les ans, il y avait énormément de jeunes.
C'est ça, donc là maintenant il faut vraiment soutenir tout ce mouvement, cette dynamique qui se met en place, soutenir les jeunes qui veulent continuer, qui veulent poursuivre cette transmission de la mémoire. Alors les ateliers, on va avoir une bonne vingtaine d'ateliers.
Wow.
Alors comme dans les précédents forums.
Alors toujours autour de la thématique. Hein.
Alors oui, toujours, bon, c'est la grande thématique, c'est la transmission, mais donc...
C'est rire dans les larmes cette année, le thème. Oui.
Oui, c'est rire dans les larmes, mais je veux dire, en fait là, les points forts seront autour de l'humour, mais là, le dimanche, tous les ateliers vont se tourner autour de trois temps forts. Le premier, c'est reconstruire mon histoire, avec des ateliers sur la recherche de son histoire familiale, il faut parfois être de vrais détectives pour essayer de retrouver toute l'histoire de sa famille, puis parler autour des transmissions qui sont compliquées, comment transmettre quand ses propres parents n'ont pas pu transmettre, les différentes manières de transmettre au travers des arts, au travers de la création. On va voir le peintre Alain Kleiman
qu'on aime présent. Beaucoup.
On aura aussi donc l'humoriste Jean-François Derec, des artistes Yacinta, Michel Taubert. Et puis on aura un temps autour de aujourd'hui et demain, comment agir. Et là, ce sera des ateliers qui vont se poser comment aujourd'hui peut-on faire, comment ça se passe par exemple dans les écoles, comment ça se passe avec les nouvelles formes de transmission, les podcasts, les réseaux sociaux, la BD. On aura aussi une réflexion sur les associations de deuxième génération. Ça existe en Suisse, ça existe en Belgique, mais en France ça n'existe pas. Comment ça se passe aussi pour les troisième, quatrième génération, les jeunes? On aura la présence des jeunes du département jeunesse du Fonds social, qui seront donc aussi présents. Donc c'est l'idée vraiment de pouvoir au-delà de toute cette histoire, de réfléchir, de se questionner, d'essayer d'avancer ensemble sur...
Bien sûr. Bravo, parce que la transmission, en fait, c'est le point d'achoppement. C'est peut-être ce qui est la transmission des valeurs le plus important. Lior, Pardon, Lior, vous y travaillez à l'année à cela?
Oui, on travaille effectivement au mémorial de la Shoah. On reçoit, vous l'avez dit, énormément de scolaires. On a cette partie éducation qui est vraiment aujourd'hui une des missions phares du mémorial, la formation, l'éducation. Si vous venez au mémorial, vous verrez tous ces scolaires. C'est assez énorme. Toutes ces classes, on n'en a jamais reçu autant que cette année. Leurs professeurs qu'on forme, les élèves qu'on amène aussi à Auschwitz sur d'autres lieux de mémoire aussi en France. Actuellement, là, par exemple, on est en train d'amener des troisièmes au Struthof. Donc, toute cette activité du mémorial de la Shoah est effectivement chaque jour. Et concernant le centre de documentation, donc nous, notre activité aux archives, au centre des archives, c'est aussi la transmission puisqu'on reçoit, on collecte toujours autant d'archives, de photos. On pense que ça va s'arrêter, mais ça ne s'arrête pas. On est un lieu pour conserver, préserver cette mémoire qu'on utilise justement pour les ateliers, pour les expositions. C'est une mémoire vivante,
oui.
Toujours.
C'est magnifique ce que vous dites. Mémoire vivante, ça va l'être, Fabienne Hampson, au moment de ce forum en plus.
Oui, et puis il y aura des temps plus légers que les ateliers avec... probablement des discussions intenses.
Oui, bien sûr.
Il y a des moments où on prendra des repas, il y a des moments où on écoutera de la musique, on aura...
Il va y avoir le groupe Haute Gesuk de Suisse qui va faire la clôture.
Qui va terminer. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que tout ce petit monde, dans les couloirs, ils vont se parler, ils vont échanger, ils vont peut-être créer des liens.
Bien sûr, c'est ce qu'on espère.
Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y aura aussi la présence de Juste, donc le fait aussi qu'il y a cette place aussi des générations d'après.
Bien sûr.
Ceux qui ont reçu la médaille des Justes, ils ne sont malheureusement souvent plus là, mais leurs enfants sont là.
Oui.
Et donc ce lien doit aussi exister. Et puis alors, ce qu'il faut souligner aussi, on va faire aussi quelque chose par rapport à Israël.
Bien sûr.
Ce qui s'est passé le 7 octobre, plus rien n'est pareil pour nous. Donc on aura un atelier aussi qui va aborder cette problématique. Qu'est-ce qui se passe pour les survivants de la Shoah, pour leurs enfants, avec ce massacre qui s'est
alors,
passé. Comment réagissent-ils?
Alors, normalement, est-ce qu'il faut s'inscrire pour tout? Est-ce qu'on peut rentrer comme ça? Est-ce qu'il faut s'inscrire pour les ateliers? Racontez-nous tout.
Je passerai... Lior, tu peux expliquer le
oui,
le
alors
lien.
En effet, il faut s'inscrire. D'abord, tout se fera à l'intérieur du mémorial et du collège François Couperin, qui est juste en face. Donc, la sécurité sera bien sûr au rendez-vous. Il n'y a pas de problème. Donc, les gens s'inscrivent. On prend encore des inscriptions jusqu'à vendredi. Là où il n'y a plus de place, c'est le Shabbat du vendredi soir. Et la visite de Drancy qui est plein à craquer. Mais il y a cette visite à Pithiviers, gare de Pithiviers et Cercil, où il y a encore un peu de place. Pour les ateliers, il y a encore un peu de place. Et pour les repas dont a parlé Fabienne, il y a encore un peu de place, mais dépêchez-vous. Je pense qu'on va clôturer assez vite. Là, maintenant, on est...
Donc, on va sur le site memorialdelashoah.org et là, on cherche Forum Génération. On va trouver toutes les informations, tout le programme, un numéro de téléphone pour se renseigner. C'est très important. Forum, donc memorialdelashoah.org. On est d'accord?
Oui, et le numéro de téléphone, c'est notre standard.
Oui.
44 77 42 72.
Alors 01 40, attendez, je répète, 01 44 77 42 72. Voilà, c'est dit, c'est très important, réservé, parce que on peut dire que, étant donné le succès, il n'y en aura pas forcément pour tout
alors,
le monde.
Lise, je me suis trompée de numéro, je vais le redire. 01 42 77 44 72. Voilà.
Alors 42 77 44 72. Donc 01 42 77 44 72. On oublie ce qu'on a dit avant. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Bravo. Et on va terminer avec quelques notes de ce grand groupe Klezmer, Haute Gesuk, qui donnera donc un concert à la fin du forum qui se tiendra donc les 18 et 20 mai. Merci, au revoir. Merci. Au revoir, Lior. Au revoir, Fabienne. Voilà. Merci beaucoup
revoir,
et bravo.
Rendez-vous samedi à 16h avec toutes les associations.
Avec plaisir. Au revoir.
Au revoir.
Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J. Radio J.
14h-15h. Le grand journal. Steve Nadjar.
Je vous attends tous les après-midi à 14h dans le Grand Journal. Une heure de décryptage en direct de l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Le Grand Journal, 14h-15h. À tout à l'heure.
Radio J. Comme beaucoup, vous pensez que votre avenir et celui de vos enfants se jouent en Israël? Préparons ensemble votre Alia.
L'Agence juive vous invite au salon de l'Alia pour vous aider à transformer votre rêve en réalité.
Éducation, logement, santé, fiscalité, emploi.
Des spécialistes vous accompagnent pour construire les étapes de votre projet d'Alia pas à pas.
Grand salon de l'Alia à Paris, le dimanche 19 mai de 10h à 18h. Inscription obligatoire sur agencejuive.org. L'adresse vous sera envoyée après inscription.
Vous voulez réduire ou annuler votre IFI et soutenir l'action sociale de la Fondation Kazib Kojazor? Donnez maintenant au Kazib Kojazor et bénéficiez de 75% de réduction sur votre IFI ou sur votre impôt sur le revenu. Grâce à vous, nous poursuivons notre action sociale auprès de dizaines de milliers de personnes. Appelez-nous sur notre ligne dédiée 01 49 23 71 40 ou connectez-vous sur www.kazib.fr. Avec le Kazib Kojazor, la solidarité nous rassemble.
Radio J.
Radio J.
Le 10-11, le 10-11, Lise Goodman.
Radio J.
Radio J, la chronique de Jean-Claude Kupermink, directeur de la bibliothèque de l'AIU, Alliance Israélite Universelle. Cher Jean-Claude, bonjour.
Bonjour Lise.
Alors aujourd'hui, nous allons évoquer avec vous le judaïsme algérien il y a 100 ans. Vous allez nous permettre de faire un saut en arrière dans l'histoire en nous parlant de l'état de ce judaïsme en Algérie en 1924.
Et oui, en puisant une nouvelle fois dans les ressources de la bibliothèque numérique de l'Alliance, j'ai retrouvé un journal, nouveau venu d'ailleurs dans nos collections numériques, parce que il faut savoir que nous enrichissons sans cesse le nombre et l'étendue des journaux, revues et magazines juifs disponibles à travers notre bibliothèque numérique. Cette semaine, donc, je vais attirer votre attention sur le bulletin de la Société de conférences juives d'Alger, dont le premier numéro couvre la période 1924-1925.
Alors, pourquoi créer une société de conférences juives à Alger, Jean-Claude ?
Alors, en 1923, un comité composé des leaders religieux et intellectuels juifs algériens francisés, dont le grand rabbin Friedman, le président de la société Etzraïm, le représentant de l'Alliance, Albert Confineau, et bien d'autres se réunissent pour fonder une société dont le programme est, je cite, « causeries et conférences sur des sujets se rapportant à l'histoire des Israélites, aux lois et à la morale chez les Israélites, à la littérature juive dans les textes sacrés, chez les prophètes, dans les écoles où se groupèrent les Israélites aux grandes époques après la chute de Jérusalem, aux traditions et aux cultes. » Fermez le banc. L'objectif est de faire pièce en fait aux représentants des autres religions et courants politiques qui sont bien présents dans la société algérienne avec souvent des visées prosélytes. Et il faut encourager les Israélites, ils n'utilisent pratiquement jamais le terme juif, et surtout les jeunes juifs à acquérir une meilleure connaissance de leur propre tradition pour développer une fierté juive et résister aux tentations de la dissolution. Il faut fournir aux enfants l'arme de la vérité avec un grand V, dont les arguments sont les principes de la morale admirable que nous ont légué le législateur et tous les sages. Il faut que la jeunesse juive ait conscience de sa force et qu'elle acquiert par l'instruction la foi et la, qu'elle acquiert par l'instruction la foi et la mentalité juive.
Alors oui, en effet. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire?
Donc ils vont, comme le titre l'indique, ils vont utiliser les conférences publiques. Donc dans la séance inaugurale, le colonel Édouard Meyer revient sur ce qui est un événement traumatique en fait pour les Juifs d'Algérie, à savoir la, ces moments, ce qu'on a appelé le moment anti-juif d'Alger, les violences anti-juives des années 1898-1899 au moment de l'affaire Dreyfus, où Alger est tombé aux mains des antisémites. La mairie d'Alger est tombée aux mains de Max Régis et Édouard Drumont. Il se souvient, donc le colonel Meyer, qu'accompagnant un jour le colonel de Polignac, donc un militaire français, Meyer a été attaqué dans la rue par les cris hostiles des vendeurs du journal L'Antijuif. Alors Meyer dit alors à Polignac: « Mon colonel, ma présence auprès de vous pourrait vous compromettre. Si vous voulez bien, je prendrai un autre chemin que le vôtre et nous nous retrouverons au quartier général. » Le réponse du colonel de Polignac: non pas, je ne professe pas des sentiments d'hostilité à l'égard des Israélites. Moïse n'est-il pas le plus grand législateur?
Wow. Voilà.
Donc c'est un rappel de l'ambiance de l'Algérie française.
Bah, bien sûr.
À la fois une grande antisémitisme et un soutien de la part de certains.
On est en 1924-25, voilà. Je le rappelle. Mmh.
Mais là, il fait un rappel de ce qui s'est passé en 1998. Le même jour donc de l'inauguration, la conférence de Albert Confineau, directeur des œuvres d'éducation de l'Alliance à Alger, évoque sa jeunesse pendant laquelle il fréquentait, comme tous les enfants juifs, le Midrash, l'école talmudique. Il était très impressionné par le grand rabbin Joseph Hasson, vénérable sage et maître de la Kabbale, craint de tous. Insatisfait par les explications défaillantes de son enseignant habituel, le jeune Confineau décide d'aller, plein de sainte vénération, questionner le sage rabbi Hasson lui-même. « Un jour, dit-il, que je trouvais la porte de la yeshiva entrebâillée, la tentation fut si forte que j'y pénétrais tête baissée. Le saint homme était plongé dans la lecture d'un immense in-folio. En tremblant, j'ai osé m'adresser à lui en disant « Seigneur Chacham !» Chacham, le sage.
Oui.
Celui-ci leva les yeux et me regarda d'un air médusé et stupéfait. Ce qui se passa alors, vous le devinez aisément, en moins de temps qu'il ne faut pour le raconter, je me trouvais dehors, non sans avoir reçu une correction qui m'enleva à tout jamais le goût pour l'étude du Zohar. Voilà l'anecdote qui répond. Donc on voit donc que ces bulletins recèlent des trésors d'anecdotes pour mieux comprendre les mentalités des Juifs d'Algérie.
Alors, quel a été le contenu de cette publication?
Alors, nous, on a des exemplaires de ce bulletin entre 1924 et 1933, et les thèmes sont principalement religieux. Je vais vous citer quelques titres. Bon, la Kabbale, la Bible dans les arts et la littérature. Alors, j'aime beaucoup un article du grand rabbin Maurice Eisenbeth, qu'on connaît bien, mais le titre, c'est quand même « Vie et œuvre de Maurice Maïmonide ».
Ah, quand
c'est
même
fabuleux, parce qu'on sait qu'il y a une francisation des noms, les Abraham deviennent Albert, les Jacob deviennent Jacques, et les Moïse deviennent Maurice. Mais là, en présentant une conférence sur Maïmonide, on le prénomme Maurice et non pas Moïse. C'est vraiment un signe intéressant. Alors, on va parler de littérature aussi, par exemple Shylock ou les Juifs d'après Shakespeare. On va parler d'histoire, bien sûr, la condition des Juifs à travers les siècles, les Juifs de Provence, les Juifs de Kabylie, les Juifs de Perse, sans oublier la période contemporaine, donc quelques problèmes juifs actuels, Israël en face de la conscience moderne, et même le monde non-juif. On trouve un article sur croyances et pratiques religieuses annamites indo-chinoises.
Ah, enfin, quand même.
Le bon temps des
annamites indo-chinoises.
Le bon temps des colonies. Au bout de 10 ans, le bilan de la société est mitigé, les conférences ont été nombreuses, mais les nouvelles menaces qui pointe à l'horizon en 1933, permettent pas d'envisager l'avenir sous d'heureux auspices. Le travail entrepris sera complété entre 1934 et 1945 par une nouvelle publication qui s'appelle le bulletin de la Fédération des sociétés juives d'Algérie, qui a été animé principalement par l'avocat William Walid, et ce journal sera plus fédérateur et politique, avec toujours une orbite culturelle. Et après la guerre, dans l'Algérie coloniale en train de prendre fin, c'est Information juive de Jacques Lazarus qu'on connaît bien aussi parce qu'il a été lui-même un grand résistant sous le nom de Jacquel, qui donnera les meilleures informations sur les Juifs d'Algérie, donc sous ce titre Information juive, jusqu'en 1962 où Lazarus, suivant le mouvement d'émigration générale, emmènera son journal Information juive à Paris, et qu'on a bien connu là encore pendant des années. Donc vous voyez, à travers la presse, on peut retracer au moins une mentalité, un état d'esprit d'une population juive.
Et puis des traditions, une façon de s'exprimer, etc. Alors est-ce que cette expérience, elle aura une suite pour les Juifs d'Algérie?
Alors, donc, comme je vous dis, après ce titre-là sur la société des conférences. Il y a d'autres titres qui vont paraître.
Bien
mais
sûr.
Bon, tout s'arrêtera avec la fin de la présence française, bien
oui,
entendu.
Évidemment. En tous les cas, une revue de plus qu'on trouve à la bibliothèque de l'Alliance, ainsi que beaucoup d'autres trésors, cachés ou pas.
On essaie de les découvrir avec vous.
Oui, bien sûr. Merci en tous les cas de porter tous ces documents précieux à notre conférence. Et pour avoir des informations,
toujours le mieux, le mail consultation@aiu.org, le site aiu.org et le site de la bibliothèque numérique. Vous tapez Bibliothèque numérique Alliance et normalement vous y êtes.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup et à dans 15 jours sur Radio J. Merci Jean-Claude Kuperman.
Merci. Hein.
Radio J.
Radio J.
Le 10-11. Le 10-11. Lise Goodman.
Radio J.
Et tout de suite, c'est le rappel des titres avec Eva Soto. Eva, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité en Israël, ce 222e jour de guerre contre le Hamas, avec la mort d'un nouveau soldat israélien annoncé ce matin, le sergent Ira Yair Ginspan, 19 ans. Il est tombé hier au combat dans le sud de la bande de Gaza et toujours sur le front sud. 14 soldats de Tzal ont été blessés, dont 4 grièvement dans des combats avec des terroristes du Hamas. Par ailleurs, l'aviation israélienne a mené un raid contre une école de l'UNRWA dans lequel se trouvait un centre de commandement du Hamas. Et cette nuit, l'armée israélienne a intercepté 2 drones venus de l'Est. Ils ont été abattus avant de franchir la frontière. Selon Tzahal, il y a des otages dans la région de Rafah. C'est ce qu'a affirmé hier le porte-parole de l'armée israélienne lors de sa visite aux troupes en opération dans l'Est de Rafah. Selon le contre-amiral Daniel Hagari, les opérations à Rafah, Jabalia et Zetoun ont déjà permis ces derniers jours d'éliminer plus de 100 terroristes. L'administration Biden ne croit pas qu'Israël commette un génocide contre les Palestiniens à Gaza. C'est ce qu'a déclaré hier le conseiller américain à la sécurité nationale. Jake Sullivan a affirmé que les États-Unis n'utilisaient cette expression que sur des normes internationalement reconnues, c'est-à-dire reposant sur une intentionnalité de détruire tout un peuple. En France, le mur des justes du mémorial de la Shoah vandalisé à Paris, des mains rouges y ont été taguées, une plainte a été déposée. Les mains rouges, symbole utilisé par les manifestants se présentant comme pro-palestiniens, est mis en cause pour leur connotation liée au lynchage de 2 soldats de Tzahal en 2000. En Grande-Bretagne, 2 hommes accusés d'avoir planifié des attentats antisémites à l'arme automatique. Ils ont comparu hier devant un tribunal britannique. Walid Saadawi et Amar Hussein sont accusés de planification d'attentats. Un 3e homme, lui, est mis en cause pour ne pas avoir divulgué leur projet.
Le 6-9, Ilana Ferradio.
Tous les matins, à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier.
Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin.
C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J.
Comme beaucoup, vous pensez que votre avenir et celui de vos enfants se jouent en Israël? Préparons ensemble votre Alia.
L'Agence juive vous invite au salon de l'Alia pour vous aider à transformer votre rêve en réalité.
Éducation, logement, santé, fiscalité, emploi.
Des spécialistes vous accompagnent pour construire les étapes de votre projet d'Alia pas à pas.
Grand salon de l'Alia à Paris, le dimanche 19 mai de 10h à 18h. Inscription obligatoire sur agencejuive.org. L'adresse vous sera envoyée après inscription.
Radio J.
Radio J.
Le 10-11. Le 10-11. Lise Goodman.
Radio J.
Radio J.
Le cinéma parlant. Lynn Toubiana.
Lise Goodman.
Ça y est, nous sommes dans l'ambiance du Festival de Cannes et notre amie Lynn Toubiana est en direct de Cannes, attention, sous la pluie aujourd'hui. Bonjour Lynn.
Bonjour Lise. Oui, effectivement, il y a vraiment de grosses averses sur le palais du Festival de Cannes.
Incroyable, ouais.
Voilà.
Alors, racontez-nous.
C'est un festival qui est sous le signe de la pluie,
oui,
mais aussi des larmes, avec la cérémonie d'ouverture qui a été présidée par Camille Cotin, qui était pleine d'émotions. Il y a eu beaucoup de larmes de Greta Gerwig, la présidente du jury, Meryl Streep, la fameuse actrice américaine,
oui,
à qui on a remis une palme d'honneur,
oui,
et puis Juliette Binoche qui a donc attribué cette palme à Meryl Streep. Et voilà, cette cérémonie d'ouverture était pleine d'émotions, elle était vraiment merveilleuse avec l'intervention de la chanteuse Zao de Sagazan qui a chanté Modern Love de David Bowie.
On écoute quelques notes.
Oui, génial, oui.
Merci Serge Surpin. Lynn.
Ah, oui, merci.
Vous êtes dans l'ambiance de la soirée, du coup, soirée d'hier.
Alors, de cette cérémonie d'ouverture, je retiendrai cette phrase qu'a prononcée Camille Cotin, que je trouve très belle. Elle a dit: chaque année à Cannes, on vient prendre une photo de notre humanité et on vient faire le plein d'espoir. Donc voilà,
c'est beau.
J'espère que ce festival va être sous le signe de l'espoir.
Alors, qui est le jury 2024? Racontez-nous.
Alors, c'est donc la comédienne, scénariste et réalisatrice Greta Gerwig,
oui,
qui est, vous le savez, hein, auréolée du triomphe mondial de Barbie, qui préside cette 77e édition. Et puis, cette présidente, elle est entourée de Ebru Ceylan, qui est un scénariste et photographe turc, de Lily Gladstone, une comédienne américaine, Eva Green, qu'on connaît bien, la comédienne française que l'on a vue récemment dans le rôle de Milady dans Les Trois Mousquetaires. Nadine Labaki, une réalisatrice, scénariste et comédienne libanaise, à qui on avait attribué le prix de la citoyenneté pour Capharnaüm en 2018. Il y a un réalisateur, scénariste et producteur espagnol, Juan Antonio Bayona, un comédien italien, la star du cinéma italien, Pier Francesco Favino, le réalisateur japonais Hirokazu Koreeda, qui avait eu la Palme d'Or pour Une Affaire de Famille, et puis, on ne le présente plus, évidemment, Omar Sy, comédien
Mais
et
oui.
producteur français.
Mais
voilà
oui.
donc un jury vraiment prestigieux.
Vraiment. Alors, ce jury, bien sûr, décidera du film qui recevra la Palme d'Or. C'est une évidence, mais je préfère le rappeler. Alors, aujourd'hui, en salle, le film d'ouverture. De quel film s'agit-il, chère Lynn?
Alors, c'est le film de Quentin Dupieux, qui s'intitule Le Deuxième Acte. C'est une comédie noire et c'est un film qui met en abîme le cinéma, avec quatre acteurs en tournage. Alors, quatre acteurs, Léa Seydoux, Raphaël Quenard, Vincent Lindon et Louis Carrel, hein, donc un fameux casting. Alors, ça se passe en rase campagne, dans un resto-route, et il y a des drôles d'échanges entre ces différents personnages qui se parlent, et ces dialogues se voient vraiment comme des sketchs. C'est une satire pleine de bouffonnerie que cette comédie noire du deuxième acte. On va peut-être écouter la bande-annonce.
Alors, l'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, David, qui est un homme très séduisant, très convoité. Mais je préfère pas vous en dire plus parce que je dévoilerai trop.
Non, pardon. L'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, qui s'appelle Guillaume, qui est un banquier international très important, et qui s'apprête à rencontrer le petit ami de sa fille. Et je suis désolé de te contredire, hein, mais c'est ça la vraie histoire. C'est l'histoire de Guillaume. Hein.
Si je puis me permettre, Guillaume, l'histoire du film, elle se concentre surtout sur la trajectoire, disons, de Willy, qui est mon personnage, qui est un jeune plein de tonus, et qui va vivre tout un tas de retournements plutôt incroyables, disons.
N'importe quoi, non mais écoutez pas ce qu'il raconte. Je veux dire, tout s'articule autour de mon personnage, Florence. Je veux dire, sans elle, il n'y aurait pas l'ombre d'un début d'histoire. D'ailleurs, le film a failli s'appeler Florence et les garçons.
Non mais sans déconner, fermez vos gueules un peu là. Le vrai héros, c'est moi. C'est mon histoire. C'est tout.
Alors voilà, cette bande annonce, j'ai eu l'occasion, Lynn, de la voir au cinéma et j'avoue qu'elle m'a interloquée et elle m'a beaucoup amusée. C'est un film qu'on a envie de voir.
Oui, c'est un film d'un cinéma absurde, décalé, hein, comme toujours avec Quentin Dupieux, qui joue sur les thèmes de la réalité, de la fiction, du vrai et du faux. Et il y a évidemment beaucoup d'autodérision dans cette satire du star system, qui ne manque pas, il faut le dire, d'un certain cynisme aussi. Voilà, un cinéma qui blague sur les abus de pouvoir au sein du cinéma, et on en entend beaucoup parler en ce moment, et sur un certain puritanisme de l'époque. C'est un choix assez audacieux de la part de Thierry Frémaux de présenter ce film en film d'ouverture.
Bien
Mais
sûr.
C'est un film à voir.
Tout à fait. Alors maintenant, on va parler un peu de la programmation du festival. Je crois qu'il n'y a pas de film israélien cette année.
Non, malheureusement, aucun film israélien.
Oui.
Non. Bon, voilà. Alors, en revanche, il y a vraiment un retour en force du grand cinéma américain dans cette sélection 2024. D'abord, il y a une palme d'or d'honneur qui va être remise à George Lucas pour cette 77e édition. Et il y a évidemment le film de Coppola qui est en compétition avec son projet fou qui s'intitule Mégalopolis. Il va y avoir également d'autres réalisateurs américains comme Paul Schrader, George Miller et son spectaculaire nouveau volet de Mad Max. Voilà, alors donc l'Amérique est vraiment mise en valeur dans cette sélection, mais aussi, Lise, la France qui est superbement représentée avec Audiard pour une quasi-comédie musicale. Il y a également ce réalisateur que j'aime beaucoup, Azanavicius, pour une touchante et surprenante œuvre d'animation qui s'intitule « La plus précieuse des marchandises ».
Oui.
Vous connaissez vous savez que c'est adapté de Jean-Claude Grimbert.
Bien sûr.
Sur cette famille juive qui se fait arrêter à Paris puis déportée vers le camp d'Auschwitz. Voilà, donc c'est un film d'animation en compétition avec un sujet fort, touchant. Et voilà, donc ça c'est vraiment la belle surprise de cette sélection avec ce réalisateur, Michel Azanavicius, qui nous a beaucoup éblouis avec The Artist et OSS 117.
Oui, qui est très reconnu dans le métier. On a hâte de voir et de découvrir son nouveau film. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle, Lynn Toubiana, du prix de la citoyenneté que vous avez créé. Qui est le jury cette année ?
Alors, le jury cette année est présidé par la réalisatrice, scénariste et actrice Valérie Donzelli.
Oui.
Alors, ce jury est également composé de l'actrice Agathe Bonitzer, de la journaliste Isabelle Chenu, du réalisateur, scénariste et metteur en scène Klaus Drexel, que nous avons interviewé pour son documentaire Les Vieux.
Oui.
Et puis également du réalisateur, écrivain et universitaire belge, que nous avons également interviewé pour son film Le cours de la vie, qui est de Frédéric Sofcher.
Voilà, alors, un très beau jury. Alors, expliquez-nous, c'est-à-dire qu'ils vont voir toute la programmation à Cannes, et parmi tous les films, ils choisiront celui qui, selon eux, a le plus un côté citoyen.
Et absolument.
Voilà.
Alors, ils doivent voir les 22 films de la sélection officielle en compétition. Et puis, à l'issue de cette semaine du festival, eh bien, ils vont décerner un prix à un film qui, selon ce jury, défend des valeurs humanistes, universalistes et laïques. Voilà.
Donc
la vocation de ce prix, c'est de distinguer une œuvre de qualité artistique, hein, bien sûr, de premier plan, mais qui exalte justement les vertus de la richesse humaine, individuelle et collective, et puis les engagements aussi, les engagements solidaires en faveur des femmes et des hommes. Voilà.
On pense peut-être, enfin je sais pas, je dis ça comme ça, au film de Michel Azanavicius, on verra.
Ça pourrait. Ça pourrait.
Oui, alors, voilà. Enfin, je dis ça comme ça. Je réfléchis en même temps que vous.
Mais cette prémonition, j'espère, s'avérera
réelle. On verra. Voilà. De toute façon, il y a plusieurs excellents films comme tous les ans à Cannes et c'est important. Alors, ce soir, qu'est-ce que vous allez pouvoir voir ?
Alors, ce soir, je vais voir le film de Sophie Filière, qui a disparu malheureusement en juillet 2023, qui s'intitule « Ma vie, ma gueule ». C'est un film qui sortira le 6 juin avec Philippe Catherine et Agnès Jaoui. C'est un film choral, intime, et la cinéaste Sophie Filière a confié à la fin du tournage de son film, comme elle était très malade, elle a confié à ses enfants, Adam et Agathe Bonitzer, Agathe Bonitzer dont on vient de parler et qui fait partie du jury du prix de la citoyenneté, elle a confié à ses enfants le soin de terminer le film. Voilà. Alors ce film, c'est sur la crise de la cinquantaine d'une femme en trois actes. C'est un autoportrait de cette cinéaste, Sophie Filière, merveilleusement incarnée par Agnès Jaoui. Alors, il faut rappeler également que nous avons, lors de notre dernière émission, interviewé Pascal Bonitzer, le père d'Agathe, qui nous a ébloui avec son film Le Tableau Volé.
Que je suis allée voir à la suite de l'émission, ainsi que je l'avais dit. Et j'avoue que c'est un excellent film. Avec des acteurs qui sont vraiment exceptionnels. Le film est interprété de façon magistrale. Lui, évidemment, mais tout le monde, ils jouent tous merveilleusement. J'avais envie de le dire.
Tout à fait. Alors, donc, voilà, c'est ce soir, c'est le film qui ouvre la quinzaine des cinéastes. Parce que vous avez dit qu'il y a plusieurs sélections à Cannes, plusieurs sections parallèles. Donc, il y a un certain regard, la semaine de la critique, la quinzaine des cinéastes. Et donc, voilà, mais... Pour ma part, je vais surtout me focaliser sur les films en compétition.
Bien sûr, ce qui est normal. Alors, chère Lynn, nous, on vous retrouve la semaine prochaine, toujours en direct de Cannes, pour nous faire un peu un compte-rendu, on va dire.
Absolument. Compte-rendu sur les films que j'aurai vus et qui peut-être sortent en même temps que la projection au festival.
Oui.
Voilà. Maintenant, je vais me rendre, figurez-vous, Lise, un rendez-vous avec Meryl Streep.
Je suis fan absolue.
Avec plusieurs journalistes, puisque il y a toute une séance qui lui est consacrée, puisqu'elle va recevoir la Palme d'honneur. Voilà.
Eh bien, on vous souhaite une très bonne interview. Pardon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on vous souhaite, Lynn, un excellent Festival de Cannes.
Merci, à bientôt.
Voilà. Et on continue en musique avec Zao de Sagazan, Modern Love. de Sagazan Modern Love qu'on entend au Festival de Cannes. Et puis tout de suite, on continue avec un chant devenu emblématique, Bring Them Home, Gal de Paz.
It should be understandable, undeniable, you can't argue at all. Unbelievable, what is happening in the world? Bring them back now, we don't care. Please understand, our heart is there, and we need them to come back. Brother, bring them back home now. We don't care what it takes. Take the evil off this earth before it breaks. Bring them back loud and clear. We don't care if it hurts your ears. We have no fear. Bring them home. It's just inconceivable, such a heavy toll. How can we even breathe? Not to have control, loved ones being pulled into darkness as they bleed. Bring them back, the time is now. Lift this dark and heavy cloud. We need them to come back home. Bring them back home now, out of that horrid place.
Home, Gal de Paz. Et on termine cette parenthèse musicale avec la grande, la merveilleuse, l'héroïne Eden Golan, l'Eurovision Hurricane, arrivée cinquième, sous les huées, mais sous nos applaudissements. Eden Golan sur Radio J.
Radio J. Radio J. Someone saw the moon tonight, took my light. Everything is black and white. Who's the fool who told you boys don't cry? Hours and hours and powers. Life is no game, but it's ours while the time goes wild.
Radio G. Radio G.
Living in a fantasy, ecstasy. Everything is meant to be. We shall pass, but love will never die. Hours and hours and powers. Life is no game, but it's ours. Why? The time goes wild. Every day I'm losing my mind. Holding on in this mysterious ride. Dancing in the storm. I got nothing to hide. Take it all.
hurricane. מילים גדולות, רק תפילות, אפילו אם קשה לראות, תמיד אתה משאיר לי אור אחד קטן.
רדיו ג'י
14h-15h, Le Grand Journal, Steve Nadjar.
Je vous attends tous les après-midi à 14h dans le Grand Journal. Une heure de décryptage en direct de l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Le Grand Journal, 14h-15h, à tout à l'heure.
Vous voulez réduire ou annuler votre IFI et soutenir l'action sociale de la Fondation Kazib Kojazor? Donnez maintenant au Kazib Kojazor et bénéficiez de 75% de réduction sur votre IFI ou sur votre impôt sur le revenu. Grâce à vous, nous poursuivons notre action sociale auprès de dizaines de milliers de personnes. Appelez-nous sur notre ligne dédiée 01 49 23 71 40 ou connectez-vous sur www.kazib.fr. Avec le Kazib Kojazor, la solidarité nous rassemble.
Le 10-11 de Lise Goodman vous a été proposé avec le concours du Centre d'Art et de Culture et du FSJU. Le Centre d'Art et de Culture, c'est aussi le Festival de Cinéma Diasporama et le Festival Jazz and Klezmer. Toute la programmation est sur culture-juive.fr.
Radio J.
Radio J.
Le 10-11, le 10-11, Lise Goodman.
Radio J.
Merci à toutes et à tous d'avoir été fidèles au 10-11 de Radio J à 11h sur radioj.fr et DAB+, vous retrouverez le journal d'Eva Soto. À 14h, celui de Steve Nadjar, votre grand moment d'info de l'après-midi sur Radio J. Une édition spéciale en direct au plus près de la guerre en Israël. Steve Nadjar recevra aujourd'hui le politologue Pascal Perrineau. Vous écouterez également les chroniques d'Arnaud Benedetti, de Pascal Zonshein depuis Jérusalem et de Chaim Nissenbaum. Alors rejoignez-nous à partir de 14h sur Radio J, un grand journal que vous pouvez suivre également sur radioj.fr et en vidéo live sur les pages YouTube et Facebook de Radio J. Je remercie Serge Surpin à la réalisation technique. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain matin pour un nouveau 10-11 et comme tous les matin, l'espoir, Hatikva sur Radio J.
Be'atzenu Eretz Zion Yerushalayim.
Radio J.
14h-15h. Le Grand Journal, Steve Nadjar.
Je vous attends tous les après-midi à 14h dans le Grand Journal. Une heure de décryptage en direct de l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Le Grand Journal, 14h-15h. À tout à l'heure.
Radio J.
Radio J.
Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J.